C'est intéressant. Ça, c'est le quartier Joliot-Curie à Vénissieux. Il a la municipalité est mobilisée maintenant parce qu'elle veut absolument que le service de distribution du courrier de la Poste revienne dans ce quartier.
Pourquoi ? Oui, parce qu'il y a depuis plusieurs jours des fusillades qui sont constatées sur place, en lien bien sûr avec le trafic de drogue. Sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui a circulé, où on voit des types en noir qui sont en train de viser avec des armes à feu une autre personne qui sort d'un immeuble. Nous sommes donc dans le quartier Joliot-Curie et suite à ces événements, la Poste a décidé de suspendre la distribution du courrier dans plusieurs rues du secteur pour protéger ses agents. Alors, bien sûr, les élus se mobilisent, etc. Ce climat délétère pour ce quartier de l'Est lyonnais n'est pas nouveau. Il inquiète. En fait, il inquiète quand c'est trop visible, en fait, j'ai l'impression. Et puis, là, il y aura sans doute des interventions, mais ensuite, les choses vont se calmer. Mais est-ce qu'on aura vraiment réglé le problème de Vénissieux, ces quartiers qui sont gangrénés par le trafic de drogue et donc la délinquance?
Sandrine?
Moi, je trouve quand même ça devient très, très grave. Alors bon, j'enfonce des portes ouvertes quand je dis ça, mais ça veut dire qu'en fait, la République recule. C'est-à-dire que donc, on n'est plus capable de pouvoir imposer une sécurité, une autorité dans ces quartiers-là. Et donc, qui en pâtit encore? Qui subit? Eh ben, les habitants, les Français. Donc, on leur dit, vous pourrez venir à la Poste que 2 heures, mais il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, où j'entends bien qu'il faut protéger les agents. C'est vraiment pas là le problème. Mais encore une fois, c'est les habitants qui trinquent. Et encore une fois, c'est aussi la République qui recule parce que derrière, on n'est pas capable de pouvoir protéger.
C'est le service public.
Oui,
c'est
donc.
Le service public.
On a vu dans certains quartiers des écoles carrément fermées.
Ah, bien sûr.
Parce qu'il y avait des points de deal devant et que c'était
plus possible. Et rappelez-vous ce qui s'est passé à Marseille avec le site Orange, où justement carrément les salariés avaient
été interdits. Des écoles, des postes, c'est pareil.
Il y a des endroits complets, des quartiers complets où l'ordre public n'est plus assuré. Alors, pendant que pour certains, ce sont les banquiers de bon vivant qui font peser un danger sur la République, pendant que ce sont les chasseurs et les tireurs sportifs avec leurs armes qui sont très dangereux, il y a de la racaille à Kalach, il y a des armes dans nos HLM, cachées dans les caves, qu'on ne va pas chercher. Et en réalité, moi ça va, je suis encore dans un quartier tranquille à Dunkerque. En réalité, ce sont les propres habitants de ces quartiers qui subissent ça en premier. Ouais. Et donc, la République, ce grand mot que la gauche aime tant, la République abandonne les gens de ces quartiers. Hein, qui voit le service public disparaître.
C'est au pouvoir, hein. C'est
Emmanuel Macron, il est pas franchement de droite.
Oui,
pour moi.
C'est Sébastien Lecornu, le ministre de l'Intérieur, c'est Laurent Nunez.
Je vais te dire,
gens qui essayent de faire preuve de fermeté dans leur discours.
J'étais directeur de cabinet à Villejuif il y a quelques années et des jeunes ont incendié le poste de police municipale. On a passé quelques coups de fil, etc. On a eu tout de suite un soutien massif de l'État à l'époque, avec des camions de CRS qui sont arrivés. Ils ont fouillé tout de suite les caves, ils ont récupéré des dizaines d'armes, etc. Et la population applaudissait. Les gens de ces quartiers veulent voir arriver les CRS, veulent qu'on vide les caves, qu'on traque les délinquants. Mais le blocage, il est où? Le blocage, il est chez nos élus. C'est un blocage mental, largement issu des idées de gauche. Où, non, Antoine, on peut pas faire ça. On peut pas débarquer et fouiller toutes les caves pour prendre les armes. Moi, je pense que si. Et ce serait grand service aux habitants de ces quartiers.
On s'adapte à l'insécurité. C'est horrible.
On n'est pas arrivé au narcotrafic de cette ampleur-là par hasard. La paix sociale qui a été volontairement achetée par les différents gouvernements successifs en fermant les yeux, elle s'est installée depuis plus de 40 ans. La drogue dans les cités, elle a commencé il y a bien longtemps. Moi, j'ai connu ça de très près, je sais de quoi je parle. On a fait mine de rien voir, et puis on a fait des politiques de pansement. On a fait le RSA, les Restos du Cœur, la drogue, on ferme les yeux.
La politique de la ville.
Et tout ça progresse. Et aujourd'hui, on en est à un narcotrafic qui tue. Qui fait sortir les calaches entre celui-là, l'islamisme et tout le reste et tout ce que ça finance de terrorisme de toutes parts. On fait mine de découvrir. Et là, c'est pareil, on a affaire à l'Himalaya, quoi. On a tellement laissé les choses s'amplifier quand en 2001 sortent les territoires perdus de la République, la France entière, la caste qui gouverne et qui dirige et qui fait la pluie et le beau temps dit, il y a une bande de nazis qui vient d'écrire un bouquin. Ferme les yeux. On a fermé les yeux pendant des années. On ne punit plus. La justification sociale a été la norme.
La lutte contre le narcotrafiquant est plutôt un échec parce qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas à enrayer.
Mais c'est-à-dire qu'elle
a différentes
échelles. Il y a quand même une volonté quand même d'agir. Gérald Darmanin, il est assez volontariste dans ce domaine.
C'est trop tard. Ça vient de loin.
Mais ça ne suffit pas. Il faut des actes derrière. Il faut des brigades.
Est-ce qu'il y a un pays au monde qui a vraiment un pays démocratique qui nous ressemble,
hein. Oui, la Colombie a évolué.
La lutte contre les gangs, même la police de New York, dans les années 80, fait un gros effort sur la lutte contre les gangs, etc. Il y a des méthodes. Il y a des méthodes. Faut juste les assumer. Et elles sont démocratiques.
Non, mais nous, c'est quoi
lutter contre le trafic, lutter contre les délinquants, c'est pas antidémocratique.
La cocaïne n'a jamais été aussi important, la consommation de cocaïne aux États-Unis.
Moi, je vois, s'il faut interroger.
Dans les rues de New York, à chaque bloc, tu
non, mais c'est reperdu. Je te parle de.
Oui, non, mais ce qui veut dire,
c'est. Mais New York, mais c'est pas. Enfin, la drogue fait des ravages aux États-Unis.
La France, c'est le pays le plus consommateur d'Europe.
Mais attendez, vous me disiez, on peut pas lutter contre les gangs et le narcotrafic. Si, on a des exemples, y compris des exemples démocratiques. Il s'agit de s'en donner les moyens. Les moyens, ça passe également par une reprise en main de la justice, on le dit souvent ici, le délinquant va être arrêté et va être fort peu sanctionné. Peut-être grâce à de brillants avocats, mais il va vite se retrouver dehors.
Répondez à cette attaque sans précédent.
Là, par exemple, il y a eu le gros procès de la DZ Mafia. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Ouais. Bon, ils ont tous été condamnés. Oui. Bon, il y a juste eu un acquittement, mais parce que véritablement le dossier était creux à son égard. Mais tout le reste, c'est des peines qui ont été extrêmement lourdes.
Oui, donc, déjà en prison,
c'est l'exemple.
Oui, alors c'est pas parce que tu es en prison que derrière, tu peux très bien aussi être acquitté et donc sortir et demander une indemnité.
C'est intéressant ce que vous citez, que tu cites le procès de la DZ Mafia, parce que ce qui était effarant, c'était leur comportement aux prévenus. Ils avaient l'impression d'être les accusés.
Je te reprends, je suis obligé.
Pardon, bien sûr, tu as raison. Mais la façon dont se comportent, on avait l'impression que c'était les caïds comme dans leur prison, c'est-à-dire que c'était eux les patrons.
La façon dont
ils parlaient aux magistrats, à tout le monde, ils avaient peur de rien. Et je me suis dit, mais finalement, le rapport de force est en leur faveur. Alors bien sûr qu'ils sont condamnés.
Non, parce que non, ils ont pris 25 ans en prison. Oui, voilà, c'est ça
qu'on leur a reproché.
Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Darmanin? Tu disais qu'il était volontariste. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée des prisons où ils les parquent tous ensemble. Et puis finalement, t'as le trafic qui continue. Donc, tu me donnes raison.
C'est-à-dire qu'on a l'impression que le combat est perdu.
Oui, mais moi, c'était pas par rapport à ça.
Même quand on les met en prison, ils continuent à commanditer des meurtres.
Parce qu'ils ont des téléphones. Ils ont des téléphones dans nos prisons. Allô, pardon, ils sont.
Oui, mais s'il y a trafic.
Avec l'argent, ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent en prison.
Antoine, s'il y a trafic, on n'oublie pas une chose, c'est qu'il y a consommation. Donc, s'il y a consommation, forcément derrière, c'est une manne pour eux.
Je pénalise le consommateur.
Il est déjà pénalisé, mais est-ce que ça a changé quoi que ce soit?
Mais non, pardon. L'amende forfaitaire délictuelle, elle est recouvrée à 10 ou 20%. C'est-à-dire qu'on a créé une amende forfaitaire qui déjà est très faible et qu'on ne recouvre pas.
Tu veux mettre en prison les consommateurs?
Mais pourquoi pas?
Mais c'est peut-être mieux consommateur que dédié à quoi?
Pour revenir au point de départ de notre discussion, parce qu'Antoine a dit, si on ne s'en donne pas les moyens. Je sais que dans ces cas-là, tu as en tête la méthode Bukele au Salvador. Est-ce que la méthode Bukele est applicable en France?
Elle est démocratique.
C'est-à-dire, tu rentres dans un quartier et tu interpelles tout le monde et tu fais le tri. Ensuite,
Une police anti-gang. On a affaire à des gangs. Il faut une police anti-gang. Et moi, je pense que la France n'est pas encore prête. On n'est pas encore tombé assez bas. Et on aura toujours des gens pour nous dire, ah non, c'est pas démocratique. Ah non, pas en France. Enfin, ça n'est pas applicable chez nous. Ben si, il y a des endroits où la République n'arrive plus à maintenir leur
place. Typiquement, Vénitieux, tu as, dans le quartier Joliot-Curie.
Oui.
Tu appliquerais la méthode Bukele.
Évidemment.
Quoi, en fait. On rentre en masse dans le quartier.
On peut commencer par des choses simples. À partir du moment où les gens sont incarcérés. Pour trafic de drogue, déjà la condition de détention de ces gens qui ont accès à l'extérieur, qui organisent de l'intérieur à la fois les trafics de drogue et qui continuent à commettre des actes de délinquance avec des personnes intermédiaires.
Parce qu'il y a rien que quand tu punis
de manière ferme et rigoureuse et que le type, quand il sort au bout de 7, 8, 10 ans, il n'a pas eu de téléphone, il n'a pas eu accès à l'extérieur, il n'a pas pu continuer à créer des liens, etc.
Et il a déjà travaillé, il faut les faire travailler.
La première, voilà. Et là, donc déjà, tu les as quand même un peu refroidis. Ouais. Là, les mecs, ils arrivent
là-dedans. Sauf que Zora, n'oublie pas une chose, c'est qu'en prison, si tu n'organises pas la paix sociale, si tu dis, faut interdire le téléphone, il faut interdire les liens, les liens familiaux, etc., ils vont péter un câble. Donc après, du coup, ils vont se dire, pourquoi moi, je vais continuer à respecter le règlement interne de l'administration pénitentiaire si derrière on me donne pas un petit peu? Mais non, parce que tu dois un peu leur donner la carotte, exactement, pour que derrière
c'est de la lâcheté. Il faut organiser la détention. La détention, elle s'organise comment? T'as un règlement, t'es puni parce que t'as commis un acte de délinquance, et dedans, qu'est-ce que tu fais? Tu te resocialises, tu travailles, Tu travailles.
Mais où, tu veux travailler où en
détention? Alors attendez,
bien sûr.
Je voudrais qu'on aille dans le Rhône.
Si tu savais les ateliers, tu gagnes 3 francs 6 sous pour que dalle.
Zora, Sandrine, on va dans le Rhône justement, et c'est Nicolas, fidèle des GG, le sapeur-pompier du Rhône qui est avec nous. Bonjour Nicolas.
Ouais, salut les GG, comment ça va?
Tu connais ce quartier?
Ah oui, bah oui, on y est presque quotidiennement dans ce quartier, ça nous fait partie de notre secteur d'intervention. Donc,
et alors?
Oui, on y est très souvent, donc ça m'étonne pas trop, mais là on cible ce quartier en particulier. Moi, je pense qu'il y a plein d'autres quartiers qui vivent un petit peu dans la même situation. Là, on est sur des tirs, donc on est sur quelque chose qui est un petit peu plus exceptionnel que d'habitude, mais les tensions, elles sont présentes tous les jours. Mais donc oui. Là, ça m'étonne pas, les facteurs, ils se retrouvent tout seuls dans ces situations. Mais il faut penser aussi qu'il y a d'autres personnes dans ce cas. Il y a les ascensoristes, il y a les agents GRDF, Enedis, les infirmiers,
ouais, les médecins.
Voilà. Donc moi, je pense que là, quand on arrive à un niveau, effectivement, où on a des tirs, bon, là, ça paraît compliqué, mais je pense que toutes les situations du quotidien qui polluent, d'ailleurs, toutes les personnes qui habitent sur place, hein, parce nous, on les entend, on interne, les gens, ils nous parlent, ils nous confient, hein, et on sent bien qu'ils sont emmerdés de cette situation.
Mais toi-même, tu as été témoin de ces tirs ou de ces points où il est compliqué de passer ou pas?
De ces caillassins?
Oui, mais en général, nous, on arrive après. On arrive après les tirs. Mais malheureusement, effectivement,
quand tout le monde a fui.
C'est ça, ouais. Mais c'est des situations compliquées et leur travail doit vraiment pas être simple tous les jours.
Comment vit la population?
La population sur place, il y en a certains qui sont terrifiés, il y en a certains qui se complaisent, il y en a certains qui sont complètement bloqués parce que voilà, ils peuvent plus rien faire, ils osent rien dire. Hein. On discute avec des personnes des fois, rien que pour une voiture qui est mal garée, tout ça, nous on n'arrive plus à accéder. Et les gens, on sent bien que ça les qui sont remontés comme tout, mais en fait ils osent rien dire, ils nous le disent. Hein. De toute façon, on peut plus rien leur dire.
Parce que ils font régner la terreur, quoi.
C'est carrément la punition des innocents, c'est-à-dire que depuis des décennies, des populations sont totalement abandonnées parce que ont considéré que la sécurité, pour eux, c'était pas important. Or, la sécurité, quand on est dans les milieux populaires et dans ces endroits, elle est primordiale, elle est capitale, elle protège. C'est même une marque de respect pour ces gens.
Mais ça fait partie des besoins primaires.
Mais bien sûr.
C'est les besoins primaires de l'humanité. Le besoin de sécurité dans la pyramide de Maslow, c'est un des premiers besoins. Et le problème, c'est que je pense que pendant 40 ans, on a allié sécurité avec fascisme, vous voyez ce que je veux dire. Et le problème, c'est qu'on a mélangé deux choses. La sécurité, ça fait partie des besoins primaires.
Surtout que l'insécurité touche avant les pauvres.
Désolé, mais oui, elle touche les pauvres, l'insécurité. Oui.
Allez, vas-y, Nicolas.
Moi, je reviens d'un voyage à Londres. Je suis rentré hier. Je me suis jamais senti en insécurité dans Londres. Jamais. Et pourtant, j'ai croisé des gens de toutes les communautés.
Oui, parce que c'est une ville de riches aussi, Londres.
Peut-être, mais je me suis jamais...
On a Paris, ville de riches, et pourtant...
Et à Lyon, je peux vous garantir qu'il y a quelquefois, même dans des quartiers de centre-ville, on se sent pas tant en sécurité. Alors que pourtant, je veux dire, enfin...
Il y en a qui pensent à désarmer la police municipale, hein,
c'est contradictoire, c'est complètement correct. Moi, je pense par contre qu'il faut former les personnes. Et voyez, c'est pour ça moi que je vous avais présenté un coup ce que j'avais monté, ma structure que j'avais montée pour de la formation, parce que je n'avais pas les réponses de mon côté suffisantes pour pouvoir gérer ces situations. On se retrouve parfois seul à devoir gérer du conflit, et c'est pour ça que je me suis formé, j'ai monté ma structure parce que je pense que la première des choses, c'est se former pour anticiper.
Merci Nicolas, merci de nous avoir fait partager ton expérience une fois de plus, Nicolas, qui est sapeur-pompier du côté du Rhône.